Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Bonsoir Emmanuel Carrère.
Bonsoir.
Merci d'être venu à Bordeaux parler de votre dernier livre, V13, un titre sec, tranchant, rapide, hein, V13, vendredi 13. Donc ça nous renvoie tout de suite donc, à ce grand procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Voilà donc Emmanuel Carrère, écrivain. Je me souviens que nous étions ensemble il y a 8 ans pour parler de votre livre autour de Saint-Paul, qui s'appelait Le Royaume. Depuis, vous avez eu d'autres occasions de vous manifester. L'année dernière, ou il y a 2 ans, pardon, pour Yoga. Hein, c'est ça, c'était déjà 2 ans. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui donc vous a pris un certain temps, puisque pendant 10 mois, vous êtes allé vous immerger à Paris, au Palais de Justice, pour faire la chronique judiciaire, un nouveau métier pour vous, la chronique judiciaire donc de ce procès, de ce méga procès, organisé donc sur l'île de la Cité, à Paris, pour juger les 14 accusés de ces attentats. Alors 14 accusés, parmi lesquels ne figurent pas les criminels, enfin ceux qui ont tenu les armes et qui ont tué 131, on verra, personnes donc à Paris, puisque tous se sont fait sauter. En revanche, donc parmi ces 14 accusés, donc il y avait donc Salah Abdeslam qui lui aurait dû donc actionner sa ceinture d'explosifs et ne l'a pas fait pour des raisons que le procès a tenté de comprendre. Vous avez proposé vos services au Nouvel Observateur, Nouvel Obs, qui donc a accepté donc de faire de vous un chroniqueur judiciaire aux côtés de 2 autres journalistes, donc Violette Lazare et Mathieu Delahousse. Donc vous étiez 3 envoyés spéciaux du Nouvel Observateur, donc au Palais de Justice. Vous un petit peu dans une position un peu plus décalée que les deux autres, puisque on vous demandait en fait de produire une. Enfin, vous avez proposé plus exactement de produire une chronique hebdomadaire dans le Nouvel Observateur, qui a été publiée pendant les 10 mois qu'a duré le procès. Ce livre que vous avez entre les mains regroupe ces chroniques. Vous les avez légèrement remaniées, dites-vous. Hein, vous ne les avez pas reprises tout à fait telles quelles. Je crois que vous les avez bien relues.
Je les ai pas mal remaniées, en fait. Je les ai beaucoup augmentées et peu remontées, rebidouillées.
Voilà. Bon, donc vous expliquerez comment vous avez procédé, pourquoi. Mmh. En tout cas, donc c'est dans une postface, donc un des rédacteurs en chef du Nouvel Observateur qui vous a cornaqué, si j'ose dire, donc dit tout le plaisir qu'il a eu donc à traiter votre copie, donc qui tombait comme un rideau toutes les semaines. Après ces semaines passées donc enfermées au Palais de Justice, assis sur un banc assez inconfortable, comme tous les envoyés spéciaux et tous les participants de ce procès. Donc ça a duré du 2 septembre 2021 jusqu'au 7 juillet 2022. Donc c'est très long, 10 mois. Voilà. Ma première question, c'est évidemment comment avez-vous Emmanuel Carrère, vous qui aimez le grand air, les reportages aussi, qui n'aimez pas forcément vous enfermer, avez-vous accepté de faire cette tentative? Cette chronique judiciaire dans ce qu'on appelle une boîte, hein, où vous étiez donc toute la journée pendant des heures et des heures tenu à vous donc à écouter et à prendre des notes. C'est une position assez statique. Comment l'avez-vous vécu cette période?
Oui, vous avez raison, c'est une position statique, par moments très fatigante, sans mouvement, parfois fastidieuse, mais d'abord, c'est moi qui avais décidé de le faire, donc personne m'y obligeait. Au fond, il était clairement... j'avais décidé de le faire pour la durée du procès. Maintenant, c'était entendu avec mes camarades de l'Obs que si au bout de quelques mois, j'en avais assez, j'arrêtais et on se quittait bons amis. Et j'ai jamais été tenté de le faire, jamais. Même s'il y a eu des moments vraiment fastidieux, parce que... Il y a eu des moments absolument bouleversants, mais aussi des moments arides. Et en fait, j'ai jamais été tenté de descendre en route, quoi. Ça a toujours été d'une richesse humaine tout à fait exceptionnelle. Donc, une expérience très enfermée dans cette sorte de boîte à chaussures géante, sans fenêtre, à laquelle on accédait en passant un tas de contrôles, de choses comme ça. Je ne l'ai quitté, et en fait je n'ai un peu séché, que à un moment où le hasard a fait que je me suis trouvé à Moscou le 24 février dernier, c'est-à-dire au moment où a eu lieu l'invasion de l'Ukraine, et je suis resté là-bas une dizaine de jours, ce que je n'avais pas prévu de faire, mais j'y suis resté une dizaine de jours. En dehors de cette espèce de cas de force majeure, et qui fait que j'ai écrit un long reportage pour l'Obs aussi, là j'ai tenu mon poste, et j'ai jamais regretté de le faire. J'ai jamais eu envie d'être ailleurs.
Je commence un peu par la fin, mais donc à la page 345, je dis jamais, pas une seule fois, je n'ai envisagé d'arrêter. Jamais je n'ai eu envie de sortir de la boîte. Nous savions que nous étions en train de vivre ensemble une expérience unique d'effroi, de pitié, de proximité, de présence.
C'est-à-dire que dans l'expérience, c'était pas seulement d'assister au procès, à ce qui se passait dans cette espèce de partie de la salle qui représente environ un tiers de la salle et qu'on appelle le prétoire, où il y a les juges, où il y a les avocats généraux, où il y a les avocats des parties civiles, où il y a les accusés, où il y a les avocats de la défense. Voilà, ça, c'est le théâtre auquel on assiste quand on assiste à un procès. Et il a été intéressant par moments, moins intéressant à d'autres, par moments passionnant, voilà. Mais il y avait aussi les autres deux tiers ou peut-être trois quarts de la salle qui étaient ceux du public. Et en fait, de public, il s'agissait essentiellement, en dehors des journalistes, des parties civiles, des gens qui, à des titres divers, avaient été, dont la vie avait été coupé en deux par ce qui s'est passé le 13 novembre 2015. C'est-à-dire, d'un côté, des gens qui étaient présents, qui ont été des rescapés, qui ont été blessés ou, même si pas blessés, gravement traumatisés et tout ça. Et de l'autre, ceux qui, des endeuillés, des gens qui ont perdu femme, mari, enfant, voilà. Et il y avait, c'est pas le spectacle est dans la salle, parce que là justement c'était plus un spectacle, mais il s'est créé au fil des audiences une espèce de communauté. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a le plus touché dans ce procès. Au-delà de ce théâtre de la justice qui s'est joué d'une façon, je trouve, tout à fait remarquable. On a beaucoup dit que, enfin, ce procès aspirait à être exemplaire, et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il l'a été. Rien n'est parfait, hein, bien sûr, mais et on pourra discuter la question du verdict, qui est autre chose. Mais ce qui s'est passé entre les parties civiles et les gens comme moi, qui n'étaient pas directement touchés, qui étaient là en position d'observateur. Là, il s'est créé un groupe. On a vécu quelque chose ensemble, et c'est ça que je retiens avant tout. C'est cette proximité, cette espèce de se trouver en présence de gens qui ont vécu des expériences humaines aussi extrêmes, de vie, de mort, qui ont été capables. Qui ont eu le courage, la force, parfois le talent aussi, le charisme d'en témoigner, et nous qui les écoutions, qui faisions alliance avec eux, voilà, tout ça a fait. C'est aussi une des choses que raconte ce livre. Et justement, parmi les choses qui se sont ajoutées par rapport aux chroniques que j'avais écrites, il y a justement beaucoup cette dimension-là, beaucoup cette dimension de rapport avec des parties civiles. Et ce qui se passait dans la salle et pas seulement dans le prétoire, ça a pris plus de place. Parce qu'au fond, à moi-même, il m'est apparu petit à petit que c'était là que se jouait l'essentiel, au moins pour moi. Et c'est de ça que le livre essaye de rendre compte.
Alors d'ailleurs, la liste des remerciements à la fin est assez longue. Hein. Vous citez un certain nombre de gens. Alors d'ailleurs, vous avez parlé spontanément des partis civils, et donc évidemment tous les représentants, donc les familles endeuillées, tous les survivants, tous ceux dont la parole évidemment était très attendue pour leur force, pour ce qu'ils pouvaient raconter de ce qui s'était passé au Bataclan. Pas seulement au Bataclan d'ailleurs, puisqu'il faut bien savoir qu'on parle du Bataclan, mais on parle aussi du Stade de France et on parle aussi des terrasses du 11e arrondissement qui avaient été passé à la Kalachnikov, donc par un des gangs de tueurs. Mais parmi ces personnes que vous remerciez, il n'y a pas que des partis civils. Il y a aussi des avocats. Oui. Il y a aussi une avocate de l'accusation, Camille Hennetier, pour laquelle vous avez manifestement une grande admiration. Et puis également, et de façon un peu plus surprenante, je ne sais pas si vous le remerciez, mais en tout cas, vous dites que vous avez parlé avec lui et que vous avez lié connaissance avec lui, avec même un des accusés. Hein, un des trois accusés, je dirais, un des plus... oui. Un de ceux qui avaient comparu libres, puisqu'il y en avait trois qui comparaissaient libres, parce que leur participation était en pointillé. Voilà. Et donc y compris avec ces gens-là, cette communauté a existé. Donc bien au-delà, en fait, de la solidarité avec des victimes.
Hein. Bien sûr. Non, mais cette liste de remerciements, elle correspond à une chose. Enfin, chacun pourrait faire la sienne, hein, de tous ceux qui ont suivi ce procès. Au fond, on se crée... Il devait y avoir, je ne sais pas... 500 ou 600 personnes, ou 600 personnes à jauge maximale, c'est beaucoup. Hein. J'ai l'impression que chacun se créait, pour cette espèce de traversée qu'a été le procès, une espèce de petit groupe informel qui étaient les gens qui devenaient, avec qui on était copains, avec qui on se... aux suspensions d'audience, avec qui on discutait, on échangeait des impressions, tout ça. Et c'est effectivement un petit groupe à la fois, pour chacun, différent, informel. J'ai l'impression que c'est un petit groupe d'une quinzaine de personnes, pour chacun, de partis civils, d'avocats, de... Et vous le dites, oui, c'est vrai, ça a été jusqu'à ce qu'inclure un des accusés. Parce que, bon, il est vrai que dans les... Il y avait trois accusés qui comparaissaient libres. Bon, s'ils comparaissaient libres, ça voulait quand même dire que les charges contre eux n'étaient pas très, très, très lourdes. Elles existaient. Hein. Je veux dire, je ne veux pas du tout les innocenter. C'est quand même des types qui ont participé à exfiltrer Salah Abdeslam de Paris à Bruxelles dans la nuit du 14 novembre. Donc, c'est pas des... Mais il a été admis, et d'ailleurs, le jugement a conclu à ça, qu'ils ne savaient pas très bien ce qu'ils faisaient et qu'en tout cas, on ne pouvait pas les considérer comme des terroristes, comme de petits délinquants, oui. Et donc, ceux-là, ces trois types, en fait, ils m'ont intrigué à un moment parce que ils étaient tous les trois sur des strapontins devant le box des accusés, entre les accusés et les avocats. Ils étaient là avec une espèce d'air d'élèves qu'on a collés, qui essayent de pas trop de se tenir à carreau, de pas se faire remarquer. Je savais que ils sont tous belges, ils vivent en Belgique, qu'ils étaient obligés. D'accord, ils comparaissaient libres, mais ils étaient obligés de vivre à Paris pendant tout ce temps-là. C'est des types qui ont pas d'argent, qui se débrouillaient pour habiter, pour louer, je sais pas, un petit... Il y en a un qui louait un abri de jardin dans le pavillon d'une vieille dame en banlieue. Et de temps en temps, il accueillait un des autres et ils dormaient tous les deux dans le même lit de ce pavillon. Et à un moment, comme j'étais intrigué et touché par eux, je les ai vus, j'ai commencé à leur parler et... malgré tout, à avoir une certaine sympathie pour eux, quoi, ou en tout cas de compassion, en me disant que c'est pas des terroristes, et c'est des types dont j'avais l'impression que tout à coup la vie c'était la petite vie un peu délinquante, d'un peu de petits dealers comme ça. Tout à coup, c'était trouvé dans l'orbite de quelque chose d'énorme et monstrueux, et ils s'attendaient pas à ça, quoi. Il y en a un qui disait, oui, mais c'est pas je méritais pas qu'il m'arrive ça, et au fond, je le pensais. Et donc, à un moment, effectivement, deux sur trois de ces petits accusés ont rejoint mon espèce de petit groupe informel de camarades de procès. Et en plus, comme j'avais fait un papier sur eux, et que ce papier, somme toute, avait touché pas mal de gens, de ce fait, pas mal de, d'autres gens se sont mis à aller vers eux, quoi, et à être. Et les types, ils étaient bouleversés quand on leur parlait gentiment, quoi, quand on leur parlait comme des êtres humains normaux, quoi. C'était, c'est.
Alors évidemment, évidemment, bon, c'est malgré tout, donc on est en affaire à une tragédie, hein, on a donc 130 morts, des familles endeuillées, des familles coupées, des vies coupées en deux. Donc ça, vous l'avez déjà dit. Bon, c'était. Alors vous avez en face de vous comme des seconds couteaux, hein, on l'a dit au début, plutôt des seconds couteaux. N'empêche que l'ombre des criminels donc plane au-dessus des débats. Est-ce que bon, c'est quand même très impressionnant quand même d'avoir à couvrir une affaire aussi grosse, aussi forte. Est-ce que vous avez craint à un moment donné, vous qui n'étiez pas chroniqueur judiciaire, bah, de pas trouver le ton juste, de pas être à la hauteur d'une certaine manière. Est-ce que vous avez eu peur de ça ou pas du tout?
Bah, ça paraît très prétentieux, mais non, pas vraiment, parce que tout simplement, on tâtonne un peu et puis on le trouve à l'usage parce qu'on est là, qu'on est avec les autres, qu'on sait que on a des confrères qui fêtent des journalistes aussi avec qui on se lit. On voit la, enfin, en plus, bon, comme vous le disiez, moi j'étais dans une position un petit peu particulière, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient sur le rythme hebdomadaire. Donc, je lisais ce qu'écrivaient les confrères dans les quotidiens. Dans l'ensemble, le procès a été très, très, très bien traité. Enfin, par exemple, il y a eu beaucoup de très bons journalistes. Les journalistes du Monde étaient un trio vraiment assez remarquable. Donc, disons, j'ai jamais eu peur de manquer de matière. Ça, il m'est jamais arrivé de voir arriver le week-end, donc le moment où je devais faire ma chronique, en me disant « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ?» Mon problème était plutôt inverse. C'était que choisir dans tout ce que j'ai à raconter, dans la montagne de notes que j'ai pris pendant la semaine. D'où aussi avantage de faire un livre après. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses que j'avais écrites qui n'avaient pas trouvé place dans mes chroniques et qui ont trouvé place dans le livre. Et quant à la question du ton, de la distance, j'ai l'impression que ça s'est trouvé petit à petit, assez naturellement. Alors peut-être qu'on pourrait me dire non, le ton n'est pas juste, mais moi, à l'oreille, je sentais que ça me paraissait convenir.
J'ai mentionné tout à l'heure le yoga dans votre précédent livre, alors où il n'est pas du tout question de terrorisme, puisque vous partez, je rappelle pour ceux qui l'ont lu ou pas lu, mais que vous partez donc pour une session de yoga dans le Morvan, je crois. Donc là, vous coupez tout, pas de téléphone, machin. Bon, vous arrivez dans ce lieu perdu, et on est le 7 février 2015. 7 février 2015, c'est l'attentat contre Charlie Hebdo. Et donc, vous pouvez nous rappeler, parce que vous avez été en fait indirectement impacté par ces attentats. Donc, c'était 6 ans, légèrement, quelques mois auparavant. Hein.
Oui, alors très, très, très légèrement et indirectement. Mais tout de même, je connaissais relativement bien Bernard Maris, qui était économiste et qui faisait une chronique à Charlie Hebdo et qui a fait partie des journalistes assassinés. Et il s'est trouvé que sa compagne, c'était un homme qui aimait énormément la littérature, et sa compagne a souhaité que un des amis écrivains qu'il aimait bien prenne la parole à son enterrement. Il se trouvait que l'autre, c'était Michel Houellebecq, qui venait de publier Soumission, et Soumission lui avait posé des problèmes tels qu'il était hors de question qu'il aille apparaître en public, quoi, à ce moment-là. Donc c'est tombé sur moi, et c'est moi qu'on a un peu exfiltré de cette espèce de retraite de méditation.
Vipassana, voilà. C'est ça.
Et donc, oui, il y a eu une espèce de comme si j'avais frôlé cette affaire de terrorisme je me souviens même d'un. Il y avait une chose qui m'avait beaucoup frappé. Cette amie qui était la compagne de Bernard Maris était allée le voir son corps à la morgue, comme d'autres personnes qu'on rencontre dans le livre V13, et ben ont été amenées à en procession, comme ça, aller à la morgue, reconnaître les uns les autres. Il y avait parfois des corps, des morts qui avaient été intervertis. Enfin, c'était, ça a été terrible. Mais ce qu'elle m'avait raconté, c'est qu'elle entendait dans la pièce à côté des gens qui parlaient avec une certaine véhémence en arabe, tout ça. Elle a demandé ce qui se passait. Et en fait, c'était la famille des frères Kouachi, qui étaient les tueurs de Charlie Hebdo. Donc, si vous voulez, il y avait dans le même espace, à quelques mètres, des corps de victimes et le corps de deux des tueurs avec leur famille qui les pleurait. Et ces familles, elles les pleurent aussi. Et d'ailleurs, à un moment, pardon, c'est peut-être un peu confus ce que je dis, mais dans le livre, je parle aussi du père d'un des tueurs, de Hasdin Amimour, qui était le père de Sami Amimour, un des trois tueurs du Bataclan. Et à un moment, lui, a une espèce, Sami Hasdin Amimour, a eu un dialogue qui a même donné lieu à un livre avec le père d'une victime, d'un homme, Georges Saline, qui fait partie des gens parmi des parties civiles et des gens avec qui je me suis lié d'amitié au cours de ce procès. Et cette espèce de dialogue entre deux hommes dont le fils de l'un a probablement tué la fille de l'autre, enfin, ou en tout cas, il y avait une chance sur trois, puisqu'ils étaient trois tueurs. Et il y a un dialogue entre les deux, enfin, cette histoire des frères Kouachi à côté de Bernard Maris et des endeuillés respectifs, ça m'avait quand même beaucoup, beaucoup frappé.
Donc, il ne faut peut-être pas s'étonner donc, que lorsque vous êtes rapproché du Nouvel Observateur, vous l'auriez proposé de cette chronique des attentats. Je ne sais pas, en tout cas, on voit bien un lien qui s'est établi. Alors, on a mentionné tout à l'heure que même parmi les gens que vous avez fréquentés pendant le procès, il y avait même un des prévenus. Vous avez évidemment beaucoup essayé d'entrer dans l'histoire pour comprendre quel avait été le parcours et les motivations des terroristes. Quel sentiment, au fond, vous avez éprouvé? C'est-à-dire, est-ce que c'était seulement... on éprouve évidemment de l'horreur, mais aussi évidemment, on essaye d'entrer un peu dans leur logique. Et vous relevez à plusieurs reprises cette phrase de Salah Abdeslam, qui vous paraît une phrase vraiment très pertinente, même si le type n'est pas toujours très pertinent.
Non, pas toujours.
Mais il a sorti une phrase extrêmement pertinente que vous citez deux ou trois fois, où il dit on ne lit pas, il faudrait lire... c'est comme si on ne disait que le dernier chapitre d'un livre, le procès finalement c'est le dernier chapitre d'un livre, mais on ne se penche pas sur tout ce qui est venu avant.
Il disait il faudrait lire le livre depuis le début. Il s'adressait comme ça à la cour, disant voilà, c'est comme si vous lisiez le dernier chapitre, il faudrait lire le livre depuis le début. Encore une fois, Salah Abdeslam ne m'a impressionné ni par son discernement, ni par sa morale. Enfin voilà, il m'a pas fait très forte impression. Mais cette phrase, je dois reconnaître, je trouve qu'elle a une grande force. Ça vaut pour un tas de choses. Hein. Je veux dire, il n'y a pas un problème dont on ne puisse pas dire ça serait mieux de le connaître depuis le début. Mais tout de même, cela dit, je trouve qu'il avait un peu tort, Salah Abdeslam, en ce sens que la cour, le procès, faisait un grand effort pour lire le livre depuis le début. D'une certaine manière, ce procès, s'il a été si long, s'il a duré quand même toute une année scolaire en tout cas, c'est parce qu'il avait une ambition immense qui était de déployer absolument dans tous les sens, de tous les points de vue, tout ce qui a abouti à cette nuit d'horreur. Et tout ce qu'il a suivi. Donc, il y a eu beaucoup de témoignages d'experts, dont certains très éclairants. On a essayé de raconter la façon dont s'est mis en place cette cellule terroriste, tout ce qu'il y a, les tenants et aboutissants de cette cellule terroriste, comment s'est établi, s'est mis en place l'État islamique, comment ça a été téléguidé de Raqqa, tout ça. Enfin, je veux dire, on n'a pas passé 9 mois pour rien. On a fait tout ce qu'on pouvait. Alors bon, on n'est peut-être pas remonté très très loin dans l'histoire, mais on a quand même vraiment tout fait pour lire le livre depuis le début.
D'ailleurs, vous mentionnez, parmi les éclairages qui ont été apportés, il y a celui des experts qui sont venus à la barre témoigner parfois très longuement. Il y en a un que je connais que vous citez qui s'appelle
Micheron.
Voilà, Hugo Micheron, bon, qui est un jeune spécialiste de donc des réseaux djihadistes très pertinent, qui enseigne à Princeton, il était venu ici pour parler du livre dont fait
le djihadisme français.
Voilà, le djihadisme français où il est donc il a été en prison, il a été dans les prisons où la plupart des djihadistes importants donc sont détenus, pour rentrer en contact avec eux, avec l'autorisation de l'administration pénitentiaire, et pour s'entretenir très longuement avec eux dans des conditions difficiles, pour rentrer un petit peu dans leur logique. Hein. Et donc, il en a sorti un livre passionnant sur
très comment... Très bon,
je crois qu'il a eu 4 heures pour témoigner, Hugo Micheron.
Ça a été très long. Si vous voulez, les témoignages, ils ont parfois duré très très longtemps. Micheron, tout le monde l'écoutait en se disant « Ouais, c'est parce que c'était passionnant. »
Il est très bon.
C'était passionnant, il est très pédagogue, il a beaucoup et on a beaucoup appris à l'écouter. Dans les gens qui s'intéressent au procès et aux faits divers, et aux assises, généralement, ils s'intéressent plus aux coupables qu'aux victimes. Et là, ça a été le contraire. Ça a vraiment été le contraire. Honnêtement, les accusés ne m'ont pas paru n'ont pas l'espèce de fascination qu'on peut éprouver pour certains grands criminels, que moi-même j'ai éprouvé pour la figure extrêmement mystérieuse de Jean-Claude Roman. J'ai pas du tout éprouvé là. Il n'y avait aucune fascination, pas beaucoup de mystère ou vraiment un très pauvre mystère, alors que le mystère, la grandeur, la fascination étaient du côté des victimes qu'on a écoutées et côtoyées aussi d'une façon qui pour moi a été une expérience, seulement pour moi, une expérience unique.
Mais il fallait sans doute pas attendre de la part des prévenus qui étaient dans le box de grandes explications sur les origines de la colère musulmane par rapport donc à l'Occident. Ils citaient tout le temps, et bien sûr, les bombes françaises commandées par François Hollande sur des innocents, des enfants syriens innocents. Bon, mais ça se limite à peu près là. La toile de fond, ils n'ont pas cherché non plus à la déployer eux-mêmes, si.
Ça se limite à... Il y a deux plans. Il y a un discours politique qui est d'ailleurs audible, mais très, très limité. Et un discours religieux audible aussi, mais très, très limité, quoi. C'est pas les... Chez aucun, je me trompe peut-être, mais chez aucun, il ne m'a paru sentir une espèce de une foi ardente ou quelque chose comme ça. J'avais l'impression de gens assez décérébrés et qui annonnaient une espèce de credo politico-religieux, mais qui est... Donc j'avais l'impression qu'il se l'était très peu approprié, quoi, que c'était une espèce de truc qu'on leur avait collé dans la tête, quoi. C'était pas...
Et d'ailleurs, ce sur quoi vous insistez beaucoup, c'est la vie de ce café à Molenbeek, donc ce quartier de Bruxelles, donc qui était un peu les Béguines, donc qui était un peu ce foyer de ce djihadisme belge dont sont partis les attentats de Paris, et où finalement on a affaire à une bande en partie des pieds nickelés, mais aussi quelques types un peu plus structurés, hein, qui mènent un peu la danse, et avec un mélange de personnages déterminés, radicalisés, et puis aussi de petits complices qui en fait sont surtout des dealers de drogue, des amis,
comme les trois gars qu'on a qui comparaissaient libres et qui sont ressortis libres aussi, hein, qui est effectivement des petits dealers assez inoffensifs. Enfin, pour qu'on les ait laissés ressortir, il fallait qu'ils soient relativement inoffensifs, parce que franchement, les avocats généraux et les juges n'étaient pas suspects de complaisance ou d'indulgence, comme personne ne l'est dans un procès terroriste, et c'est normal.
Alors justement, sur le plan juridique, vous avez beaucoup appris sur le plan juridique, j'imagine, au contact de tous ces chroniqueurs, et puis donc avoir la mécanique d'un procès. Il y a une chose que vous dites, par exemple, un des enjeux du procès, c'est pour les avocats de la défense de faire tomber le T. Alors, tomber le T, c'est-à-dire que il y a ce qui s'appelle l'association de malfaiteurs, et puis il y a ce qui s'appelle l'association de malfaiteurs terroristes, donc le T. Et faire tomber le T, évidemment, c'est la garantie d'obtenir à l'arrivée une condamnation beaucoup moins lourde. Bon, alors, donc, vous avez dû rentrer un peu dans le code pénal, hein, de façon assez précise. Hein, vous avez.
Oui,
est-ce que ça a été difficile pour vous, cette.
Bon, c'est quand même pas ce que vous venez de résumer. C'est pas sorcier non plus.
Non, quoi. Ça, c'est pas sorcier, mais il y a des choses plus difficiles, peut-être, à comprendre.
Bah, il n'y a pas tant de choses. Bon, en plus, encore une fois, c'était quand même un stage qu'on a pris le temps de faire. Enfin, c'est pas on a pris le temps de se familiariser.
Oui, vous aviez lu l'ordonnance de mise en accusation.
Oui, là, alors je pense que c'est certainement vrai que le dossier d'instruction, les 427 tomes du dossier d'instruction, si on les empile, font 53 mètres. C'est dire que c'est quand même un document dont il est difficile de prendre connaissance, quoi. Mais avant le procès, il y a un document qui est, je dirais, une espèce de synthèse de ça, qui s'appelle l'ordonnance de mise en accusation, qui fait quand même 400 pages, quoi. Mais ces 400 pages, oui, je les ai vraiment bossées pendant l'été, avant le début du procès, quoi. Ainsi que pas mal de lectures, de choses comme ça. Mais c'est vrai que la plupart des l'essentiel y est résumé, quoi. Et ensuite, bon, tout ça est déplié au fil du procès. Mais non, c'est petit à petit, on apprend effectivement aussi. On parle avec les avocats, on voit les avocats ce qu'ils cherchent à obtenir, ce qu'ils cherchent à éviter. Tout ça, ils vous font aussi des leçons de droit, les avocats.
Des stratégies. Ils expliquent leurs stratégies.
Bah oui, ils ont des stratégies. Et cela dit, les avocats des petits accusés, oui, ils avaient une bonne marge de manœuvre et ils pouvaient vraiment espérer les faire sortir libres, et c'est ce qui s'est passé. Mais pour les plus gros accusés, la marge de manœuvre est faible. Hein. Ils pouvaient pas, c'était sûr qu'ils prenaient des peines très lourdes.
Au point d'ailleurs que certains des accusés refusent de parler, puisqu'ils disent de toute façon nous sommes déjà condamnés d'avance.
Ça c'est vrai. Hein.
Voilà, ça, c'est vrai. Nous sommes condamnés d'avance, donc c'est pas la peine qu'on parle. Pourtant, voilà. Donc il y a toujours ce suspense de savoir si l'un ou l'autre va parler, pas parler. Donc ils se mettent dans les deux situations. Souvent, vous avez évidemment eu des moments où vous avez vu la cour évidemment avoir peur que finalement le procès s'interrompe, ou en tout cas s'arrête pendant quelques temps, parce que un accusé décide de se taire.
Il y a eu au début de l'année, vers janvier, une espèce de moment vraiment de basse eau du procès, où d'une part il y avait Covid sur Covid des accusés, et les accusés, s'il y en a un qui a le Covid, on arrête. On arrêtait une semaine, on reprenait, ce qui créait quand même, à chaque fois c'est dur de redémarrer, quoi. Il y a une espèce de truc, c'est une machine, c'est un gros train, un procès quand même, avec une, surtout un procès comme ça. Et puis il y avait les accusés qui décidaient de se taire, faisaient savoir par leur avocat qu'ils décidaient de se taire. Il y en a eu un, puis un autre. À un moment, on a vu que entre cette espèce d'épidémie de silence et le Covid, le procès était bien embourbé. Ça a duré, près 6 semaines, quelque chose comme ça. Et puis il y a une espèce, et puis c'est reparti. Il y a eu une série d'audiences très très fortes. Il y en a d'autres, il y en a qui se sont mis à parler. Mais voilà, il y a eu des hautes et des basses eaux. Mais j'ai trouvé ça intéressant, même dans les moments de basses eaux.
Alors vous, Emmanuel Carrère, donc on vous attendait pas seulement sur la chronique judiciaire elle-même, parce que ce que vous n'êtes pas, mais on vous attendait aussi sur les à côté du procès, sur des choses un peu plus inattendues. Alors il y a des choses presque amusantes parfois. Bon, c'est à un moment donné, vous dites il y a un collègue, enfin de journaliste qui vous dit il y a un autre procès là qui se déroule en ce moment dans une autre salle. Allez-y, Emmanuel, ça vaut le coup. Et là, vous tombez sur, dites-nous sur qui vous tombez, quoi.
Carlos,
le terroriste.
Le terroriste emblématique des années 70. Et il se trouvait que Carlos est en prison depuis 27 ans. Il y sera jusqu'à la fin de ses jours.
Donc c'est la tuerie de la rue Marbeuf.
Le drugstore publiciste, voilà. Plus plusieurs autres. Enfin, il a quand même tiré sur pas mal de gens, tué pas mal de gens, Carlos. Il était malgré tout, il comparaissait parce qu'il y avait une espèce de tout petit truc, tout petit vice de forme pour un truc pour lequel il avait été jugé 20 ans plus tôt et qu'en gros, il n'y avait aucune chance que ça aboutisse à quoi que ce soit, enfin de même dans lui fait, en lui retirant un an de prison à sa peine, même on pouvait lui retirer 10 ans de prison, de toute manière, ça ne changeait rien. Mais il y avait un procès de Carlos. Et procès qui se passait dans une totale indifférence. Il y avait une vingtaine de personnes qui étaient une espèce de bizarre fans club incluant quelques gilets jaunes, deux vieilles dames manifestement antisémites, Monseigneur Gaillot. C'est très très étrange. Et en plus, par ailleurs, l'avocate historique de Carlos est également son épouse. Donc, on assistait à un truc où elle plaidait complètement en roue libre en racontant des anecdotes, des souvenirs d'enfance, des trucs comme ça. Ça durait des plombs, on voyait pas. Il y a aucune
tout ça avec la complicité du.
De temps en temps, lui, il l'interrompait pour corriger. Elle a dit bah, écoutez, si vous savez quoi dire, vous le dites et moi j'arrête. Une espèce de scène de ménage, enfin, un truc. Et c'était une espèce de vieux monsieur qui avait l'air d'un vieux parrain de narco, comme ça, avec un costume bleu ciel, des cheveux blancs en arrière, une petite moustache. Très. Et cette scène était d'une étrangeté absolue, parce qu'en plus, c'était une image d'un terrorisme vintage, quoi, quelque chose d'autre.
Vous êtes resté combien de temps dans cette salle d'audience?
Oh, bah, pas longtemps, j'ai dû rester 3 heures, quelque chose comme ça.
Ouais, le temps d'apercevoir comme une sorte de comédie, finalement.
Oui, parce qu'en même temps, je voulais pas m'éloigner trop de ma vraie salle d'audience. Je suis descendu pendant 3-4 heures.
Mais vous se disiez quand même, c'est bon de raconter ça quand même.
Bah oui, c'était.
Ça apporte un peu de contre-champ par rapport au procès.
Oui, c'était très étrange.
Et alors, les à côté du procès, il y en a plein. Il y a toutes les interruptions de séance, donc qui se passe dans la salle des pas perdus. Et puis il y a aussi parlez-nous peut-être aussi de la brasserie du palais, parce que juste en face du palais de justice, il y a une brasserie.
La brasserie qui s'appelle la brasserie des deux palais.
Et elle joue un rôle très important, hein, cette brasserie.
Ben oui, parce que c'était un endroit. Si vous voulez, c'est en fait il y avait un truc, c'est on entrait au palais pendant le truc par la place Dauphine, pour ceux qui connaissent Paris. Et donc, avant l'entrée, on prenait des cafés, on se retrouvait un peu avant au place Dauphine. Et puis, à la fin de la journée, on sortait du côté du boulevard du palais, beaucoup plus. Et il y a cette brasserie historique, il y a quelque chose d'absolument balsacien, quoi, qui est la brasserie des deux palais, où depuis des générations se retrouvent, des avocats, il y a quand même aussi, comme il y a des juges aux affaires familiales, il y a aussi les couples qui viennent de divorcer, qui viennent prendre un café ensemble. C'est un endroit assez. Moi, je trouve que c'est un endroit extraordinaire. Et d'ailleurs, même maintenant que je vais plus au procès, comme c'est pas très très loin de chez moi, je continue à y aller. Je donne des rendez-vous à la brasserie des deux palais.
Et vous espérez y retrouver quelques amis, non ?
Tout le monde s'y retrouvait. Mais non, ce qui s'est passé, qui était une chose qui justifiait de parler de cette brasserie des deux palais, c'est que une fois prononcé le verdict, donc dernier jour du procès. Eh bien, tout le monde, tous les gens qui étaient là, partie civile, magistrat, tout le monde, avocat,
y compris un accusé, d'ailleurs.
Y compris les trois accusés, qui sortent en libre. On est tous descendus, on a descendu les marches et on s'est retrouvés dans cette brasserie des deux palais où on a commencé à boire des coups et ça a duré toute la nuit et c'est sans doute la soirée la plus incroyable que j'ai passée de ma vie. Parce que c'était très étrange parce que, si vous voulez, il y avait une espèce de très bizarre liesse ou euphorie. Je dis très bizarre parce qu'il n'y a pas tellement de raisons d'être euphorique quand, malgré tout, on vient de condamner à perpétuité une quinzaine de personnes, quoi qu'elles aient fait. Enfin, je veux dire, on ne fait pas la fête quoi, après ça, normalement. Que beaucoup de gens parmi qui étaient là étaient des gens très lourdement blessé, endeuillé, tout ça. Et néanmoins, il s'est passé quelque chose qui était justement tout à coup, il y a eu cette espèce à la fois de séparation et de presque de fusion de cette communauté qu'on a constituée pendant un an. Et il y a eu un truc de où est passé. Enfin, c'est comme si ça avait multiplié ou m'avait porté au carré cette espèce de d'effet de communauté, d'effet de collectivité qui a rendu le procès au fond si précieux quoi pour ceux qui l'ont vécu, même en qualité d'observateur. Non, ça a été un moment très étonnant et très bouleversant.
Il y a à la fois le soulagement d'en avoir fini avec cette très très longue enfermement, la tristesse aussi de devoir se quitter parce que je suppose que
une espèce d'effet colonie de vacances qui se sépare. Oui,
voilà, ça, vous c'est séparez, sûr. Donc tout le monde se dit on va se revoir et de fait d'ailleurs vous dites ça va se passer.
Parce oui, je crois que ouais.
Ça va se passer. Donc les amitiés que vous en avez parlé au début que vous avez pu nouer. On va pas tous les passer en revue, ça serait pas possible. Mais parlez-nous par exemple de Nadia Mondeguer, parce que vous en parlez souvent de cette femme d'origine égyptienne là, avec qui vous avez donc qui a une fille donc qui a été tuée au Bataclan.
Si vous voulez, bon, il y a eu beaucoup de témoignages absolument bouleversants, et l'un d'entre eux était celui de cette femme, Nadia Mondeguer, dont la fille a été tuée
sur les terrasses, oui, pardonnez-moi.
Et voilà, son témoignage, alors comme vous dites, c'est une femme qui a une très très grande, je dirais, dimension humaine. Cette femme, on parle deux minutes avec elle, on a vraiment quelqu'un devant soi. Et elle a aussi cette particularité, elle est égyptienne, elle parle parfaitement l'arabe, elle connaît parfaitement le monde arabe. Et au point, elle a fait des travaux historiques. Elle a fait un mémoire d'histoire sur une figure parmi les fondateurs des Frères musulmans. C'est-à-dire que, disons, ce dont il est question là, elle le connaît par cœur. Et elle, pour ce qui est de connaître le livre depuis le début, oui. Et d'ailleurs, en me liant d'amitié avec elle, je comptais aussi beaucoup sur elle pour me raconter un peu le livre depuis le début. Et en tout cas, elle a beaucoup impressionné tout le monde. Et il y a une chose qui est même à une espèce de point final de son témoignage qui a été très fort, c'est que elle s'est tournée vers les avocats de la défense en leur disant « Et vous maintenant, les avocats de la défense, faites votre boulot et faites-le bien. Je dis ça sincèrement. » Il y avait une espèce de noblesse, quoi, très très impressionnante. Et moi, je me suis lié avec elle. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, quoi, qui est vraiment, je dirais, entré dans ma vie comme une amie. Et là, c'est avec elle qu'il y a eu une autre assez bizarre sortie de l'enceinte du palais de justice, parce que à un moment, vers la fin du procès, il était question de ce que dans la police on appelle le buisson conspiratif. Le buisson conspiratif étant l'endroit où s'est réfugié le chef opérationnel du commando Abdelhamid Abaoud, il a été abattu trois jours après par le raid à Saint-Denis, mais il s'était réfugié avec son complice.
Dans un lieu complètement improbable. Hein.
Sur une espèce de talus au pied de sous l'autoroute 86 à Aubervilliers, lieu, comme vous dites, complètement improbable, extraordinairement inconfortable, et on se demande un peu ce qui fait qu'on n'avait pas prévu un plan pour exfiltrer éventuellement le chef du commando. En tout cas, il était beaucoup question de ce buisson conspiratif, et à un moment, Nadia... J'étais à côté d'elle, s'est tournée vers moi et m'a dit « Moi, j'aimerais bien quand même le voir, ce buisson conspiratif. » Et j'ai dit « Bah, allons-y. »
Et vous voilà parti.
Et on est allé avec un troisième qui était un jeune homme qui lui a été blessé au Petit Cambodge. On était ensemble, on était amis. Et on est allé tous les trois faire cette espèce de repérage qui est d'ailleurs très intriguant. Hein. On comprend vraiment pas ni comment le type s'est retrouvé là plutôt qu'ailleurs. Enfin, c'est un endroit très très bizarre. Ni pourquoi la police ayant été en fait sachant qu'il était là ne les a pas abattus ou essayé de les prendre vivants, ce qui aurait totalement changé la nature du procès. Il y avait eu deux des tueurs dans le box des accusés, c'était plus du tout la même chose. Mais a attendu qu'ils se retrouvent dans leur planque de Saint-Denis où le raid a mitraillé tout ça pendant toute une nuit et les a effectivement abattus, mais au passage a assez maltraité les malheureux habitants de la
ville. Oui, en faisant pas mal de dégâts collatéraux. Ouais.
Beaucoup de dégâts collatéraux.
Et pour finir sur Nadia Mondéguer, il y a quand même quelque chose aussi d'assez émouvant dans son cas, c'est que donc à la fin du procès, elle part en Égypte, puisqu'elle est égyptienne, vous l'avez mentionné, donc elle va passer un peu de temps au Caire. Et là, elle rencontre un policier égyptien. J'aimerais que vous nous redisiez ce que lui dit ce policier égyptien à qui elle raconte en fait le procès, ce qui s'est passé.
Elle était dans le jardin de la célèbre mosquée à Al-Azhar, qui est vraiment le cœur de l'islam sunnite. Endroit où quatre ans plus tôt, elle avait été avec sa fille tuée entre-temps. Parce que vraiment, bon, c'est sa vie natale, le Caire. Et c'était la fin de la journée, un moment très paisible. Il y a un policier qui est venu lui dire il était temps, on allait fermer, qu'il était temps qu'elle quitte le jardin. Et tout le monde était parti, elle a insisté. Le policier dit non, vous partez. Et à ce moment-là, elle s'est mise en arabe à lui raconter tout ce qui s'était passé, à lui raconter les attentats, sa fille, tout ça. Et le policier l'écoutait avait complètement abandonné l'idée de lui faire quitter le jardin et lui parlait, et elle a écouté avec beaucoup d'émotion. Et elle disait, oui, pour moi, finalement, ça a été le début de quelque chose, le début d'une espèce d'après, quand j'ai pu faire cette chose, raconter l'histoire en arabe à ce policier égyptien. Elle a eu l'impression, elle disait, que le monde se remettait un peu à l'endroit.
Et c'est parce que ce policier égyptien lui a dit, à un moment donné, vous êtes des martyrs.
Oui, il lui a dit, c'est ta fille et les autres, ce sont des chaïds, des martyrs, et pas les tarés qui usurpaient ce titre.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, au début de la conversation, on s'achemine un peu vers la fin, mais au début de la conversation, que ce procès était assez exemplaire, par sa tenue, par le travail qui a été réalisé, par cette ordonnance extrêmement précise, par la qualité des avocats de l'accusation. Les trois, ils sont trois. Hein,
deux hommes, de tout le monde, hein, les avocats femmes, de la défense.
Et du président aussi, évidemment.
Mais d'une façon générale, tout le monde a été... tous les acteurs de ce procès étaient de très grande qualité, et c'est aussi ça qui fait que ça s'est déroulé dans une si grande dignité et un très haut niveau, quoi.
Mais cependant, vous dites quand même, vous vous faites l'écho quand même d'une critique un peu répandue qui était de dire on risquait dans ce procès, on est peut-être tombé dans le piège d'une justice préventive, c'est-à-dire de condamner là, c'est là peut-être là que vous pouvez parler du verdict, c'est-à-dire de condamner des accusés, pas forcément sur la base de ce qu'ils ont fait, mais sur la base de ce qu'ils auraient pu faire
pour certains, oui,
voilà, pour certains
vrai.
De ce qu'ils auraient pu faire. Donc, ça s'appelle de la justice préventive,
et c'est pas
forcément conforme au droit. Alors comment vous avez ressenti cette est-ce qu'il y a une contradiction, est-ce que le procès quand même là est un petit peu légèrement dérapé vers
c'est vrai, il y a quelque chose de paradoxal dans le fait que moi je continue à trouver que ce procès s'est déroulé de façon remarquable, et en même temps je trouve et je suis vraiment pas le seul, y compris parmi les parties civiles, à trouver ce verdict assez discutable. Effectivement, il y a plusieurs des types qui auraient dû faire partie du commando, les types un Irakien, un Syrien, qui était en train, comme d'autres, de faire le voyage pour entrer en Europe, arriver en Belgique, et tout simplement, ils auraient dû commettre ces crimes, ils étaient absolument prévus pour les commettre, mais il se trouve qu'ils ont été arrêtés par la police à Vienne. Donc ça veut dire que ils n'ont pas commis alors on peut leur reprocher d'autres choses, mais les peines, ils ont pris quand même des peines très très lourdes, je ne me rappelle plus combien exactement, mais on peut dire que normalement on ne peut pas condamner des gens pour ce qu'ils auraient pu faire, dû faire, failli faire, on les condamne pour ce qu'ils ont fait, et là c'était pas le cas. Donc il y a ce truc qui est que je trouve troublant, ce qui va pas, et je pense qu'on peut aussi tout de même discuter la peine qu'a pris Salah Abdeslam. Comme vous avez remarqué, je ne m'apprête pas, je ne défends pas spécialement Salah Abdeslam, mais disons, il a pris une peine de perpétuité incompressible définitive. Parce que normalement, quand vous prenez perpétuité, il y a une peine de sûreté. Ça veut 20 ans, 25 ans, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, 25 ans, même si c'est perpétuité, on peut commencer à discuter et à voir si, en fonction de votre conduite en prison, de l'évaluation de votre dangerosité, tout ça, on peut envisager une sortie. Là, ce qu'a pris Salah Abdeslam, c'est fini, vous rentrez en prison, vous n'en sortirez plus. Ce qui est quand même une peine, c'est terrible, quoi. C'est une peine très, très, très rarement donnée. Quand elle l'est, c'est à des gens d'une, je ne sais pas, des grands pervers, des serial killers du genre Michel Fourniret, quoi. C'est-à-dire, c'est pas pareil. Et qui plus est, il y a quand même un argument qui me semble irréfutable, c'est que si justement il y avait eu dans le box Abdelhamid Abaoud ou le frère d'Abdeslam, Brahim, qui lui a fait partie du commando et a battu je ne sais pas combien de personnes à la Kalachnikov avant de se faire lui-même sauter, c'était pas pareil. Ceux-là auraient peut-être pris cette fameuse perpétuité incompressible, mais de ce fait, Salah Abdeslam, qui n'a tué personne et qui aurait dû seulement, mais qui n'a pas tué, qui était, il aurait certainement pris une peine très lourde, peut-être même perpétuité, mais perpétuité assortie d'une peine de sûreté. Donc là, en fait, si vous voulez, ce qui est clair, c'est que on a choisi l'exemplarité au détriment de la proportionnalité.
C'est sûr que Salah Abdeslam, il aurait été avantageux pour lui d'avoir un des vrais tueurs dans le box.
Ah, ça
parce
changeait.
Que par contraste, son ça rôle aurait semblé beaucoup plus léger. Hein. Enfin,
donc voilà, moi je trouve pas le verdict très
très convaincant,
très satisfaisant ouais. En partie.
Donc est-ce que c'est la différence entre la justice et la justice antiterroriste ?
Ben, je pense que vous avez raison.
Pardon ?
Je pense que vous avez raison. Oui, que la justice antiterroriste, pour des raisons tout à fait compréhensibles, mais au fin dont il faut au moins être conscient, outrepasse un petit peu ce que devrait être la justice. Oui.
Alors vous mettez toujours un petit peu en scène hein, dans vos livres.
C'est ce qui fait leur charme.
Non, mais ça fait leur charme aussi. Et alors donc notamment au moment où vous écoutez la plaidoirie de l'avocat de la défense et vous trouvez que la plaidoirie est absolument remarquable. La plaidoirie de l'accusation, pardon. Vous trouvez cette plaidoirie absolument remarquable. Vous dites à un moment donné, moi je suis à 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis après vous dites, mais comme je me connais, je suis toujours un peu de l'avis du dernier qui parle. Enfin, pas vous dites pas ça tout à fait comme ça, mais j'ai plutôt tendance à être empathique avec les gens qui me donnent des bonnes raisons et des bonnes explications. Donc, maintenant que je vais entendre les avocats de la défense, je vais calculer combien de temps il va leur falloir pour me retourner. C'est ça. Et combien donc
Oui. Non, mais c'est vrai. Ça c'est un trait de caractère. C'est celui d'entrer très facilement dans les raisons d'autrui. Et ça, je pense que c'est à la fois une qualité, parce que ça veut dire une certaine absence de préjugés, tout ça, mais c'est aussi un défaut, c'est-à-dire c'est le risque d'être une girouette, quoi. C'est-à-dire, je pense que ça ne ferait pas de moi un très bon juge. J'aurais plus volontiers été avocat.
Surtout quand la plaidoirie de la défense a le dernier mot.
C'est vraiment le principe, c'est que la défense a le dernier mot. Ça, c'est un grand et très important et
très beau principe
et très essentiel principe du droit.
Alors donc tout ça donc nous amène un peu à la fin de cette conversation. J'avais une dernière question à vous poser. Vous avez parlé tout à l'heure de la toile de fond, ce livre qu'il faut déplier, ce qui est intéressant, etc. Et donc à la page 202, j'avais noté. Vous dites que vous êtes mis à accumuler beaucoup de livres sur l'histoire de l'islam. Hein. Vous êtes en train de lire Rodinson, vous êtes en train de lire de grands spécialistes, cet américain là, donc dont le nom m'échappe à l'instant, mais voilà. Donc tout c'est Bernard Lewis, voilà.
Ah oui.
Bernard Lewis. Donc tous ces gens qui ont évidemment sondé Maxime Rodinson, bon, qui ont sondé l'histoire de l'islam sur le plan intellectuel, sur le plan religieux, sur le plan de cette théologie. Et donc ça vous a donné envie ce procès de d'aller plus loin, peut-être dans un livre prochain.
Pour dire la vérité, à un moment, je me suis dit, oui, je voudrais faire un autre livre derrière celui-là, qui soit pas un livre sur ce procès, qui soit un livre, avec toute la prétention d'essayer de voir, de lire ou d'écrire le livre depuis le début, c'est-à-dire raconter toute une espèce d'histoire de l'islam aboutissant au djihadisme. Tout. Bon, disons que j'ai en effet formé ce projet et que on sait jamais, les choses peuvent refaire surface, mais là je l'ai abandonné à la fois parce que on se pose quand même la question de sa légitimité, quoi, à écrire sur une religion qui n'est pas la sienne.
C'est écrit là.
C'était vrai là. Mais entre-temps, je l'ai abandonné. Bon. Et puis il y a aussi que... Non, faire un truc sur le djihadisme... J'ai passé un an sur un procès terroriste de djihadisme. J'ai pas du tout envie de continuer à écrire sur le djihadisme. C'est quand même des gens... C'est misérable quand même. C'est misérable. On n'a pas envie je n'ai pas envie de passer encore 2 ans de ma vie à m'occuper
Sur la secte des assassins, par exemple, des choses comme ça.
Ah oui, la secte des assassins, évidemment, on est plus content, on aime mieux ça quand ça se passe
au
13e siècle. Mais, ouais. Mais là, il s'agirait quand même encore de djihadistes contemporains. Et ça, je m'en sens pas. Maintenant, c'est toujours comme ça. Quelquefois, les projets qu'on abandonne, ils refont surface sous une autre forme.
Vous avez le temps d'y penser.
Exactement.
Voilà. En tout cas, je vous encourage évidemment à lire ce livre qui est très riche. On n'a fait que l'aborder. Hein. Donc, il y a bien d'autres thèmes que vous avez développés au fil de ces longues chroniques. Donc, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Et vous félicite donc pour la qualité de ce livre. Et merci à vous tous d'avoir assisté à cette rencontre. Et donc, merci Emmanuel Carrère.
Merci.